You're listening to SBS.
If you love the World Cup, this podcast is for you. The World Cup, but not really, is about all the stories in and around football.
It's like a kaleidoscope of culture, kicking off from the football field.
From a blind women's team
to a jersey collector
to chanting
to reflections on sport
and stories from the heart. This is the World Cup, but not really. Listen to it on SBS or wherever you listen to your podcasts.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, deuxième partie de notre épisode consacré à la réserve aborigène de Moore River. Dans le précédent, on a vu que les conditions de vie sur place étaient atroces, qu'il y avait eu de nombreux morts, des morts évitables, en particulier auprès des plus jeunes pensionnaires de cette réserve, les enfants. Mais on va voir dans celui-ci, avec l'historien Romain Fati, que si cette réserve, comme les autres qui ont existé en Australie, s'inscrivait dans le cadre d'un projet eugéniste et raciste, elle reflète également le contexte de l'époque, celui d'une Australie encore en plein développement, où en fait les conditions de vie sont extrêmement dures pour tout le monde. Très bonne écoute à tous. Alors, vous évoquiez à l'instant les conditions sanitaires catastrophiques qu'il y avait dans cette, j'allais dire, dans ce camp, dans cette réserve. Ce qui me surprend dans toute cette histoire, c'est que officiellement, en tout cas, le projet, c'est d'occidentaliser les aborigènes, les habituer à notre mode de vie. Et là, vous le dites, bah, que, en gros, on laisse des enfants mourir par dizaines, etc. J'ai vu que pour la plupart d'entre eux, vous évoquiez entre 300 et 500 personnes résidant sur place au cours de l'existence de cette réserve. On dort sous des tentes de fortune, c'est pas exactement le mode de vie occidental, ou alors entre ça et l'absence totale de soins en cas de petite maladie, parce qu'on les enfants qui sont morts par dizaines, souvent c'était des petits rhumes et des trucs tout à fait soignables. C'est le mode de vie à l'occidental, mais du Moyen-Âge en fait.
Alors oui, et pour être tout à fait honnête, ce sont pas les seuls à le subir. En fait, dans ces années-là, l'Australie essaie de faire venir des migrants également blancs de Grande-Bretagne, puisqu'à l'époque, il y a la politique de l'Australie blanche. Si vous n'êtes pas blanc, vous ne rentrez pas. C'est un pays qui est extrêmement raciste et qui le demeurera encore pendant des décennies après cette époque post-première guerre mondiale. On fait aussi venir des orphelins d'Europe, enfin de Grande-Bretagne, dont certains trouvent la mort. L'Australie occidentale est assez connue pour ça dans l'histoire de l'immigration en Australie, parce qu'en fait, il y a un manque d'infrastructures, un manque de personnel, on les déporte à l'autre bout du monde, donc sans famille puisqu'ils sont orphelins, on les envoie dans des écoles où parfois ils sont, on leur enseigne le strict minimum parce que le but c'est juste de faire d'eux des travailleurs, des servantes pour les demoiselles et puis des farmhands, des ouvriers agricoles si vous voulez pour les jeunes hommes. Donc ce que les aborigènes vivent de façon... alors, je n'ai pas la population blanche au même niveau que les aborigènes. Très clairement, elles sont à un niveau de difficulté, de racisme et de dureté qui n'est pas comparable. Mais il y a aussi des morts dans ces processus-là. En fait, c'est l'époque des grandes idées à la fois sur la race, mais sur comment gérer les populations. On est aussi dans une époque avant les antibiotiques, que ce soit pour les aborigènes ou pour les blancs. Et donc, voilà, un processus colonial est toujours brutal. Il l'est pour les populations colonisées, mais il l'est également pour les populations qui colonisent, dans une moindre mesure, certes, surtout quand c'est la population qui devient dominante. Mais dans le cas de la Moore Reserve, enfin Settlement, si vous voulez, au bout d'un moment, le gouvernement se débarrasse de la mission parce que c'est plus gérable et surtout c'est
un échec total.
C'est vraiment pas une image. C'est un échec total, mais c'est vraiment une très mauvaise image. Et il faut attendre, je crois, 1951 ou 1952 avant que le settlement, enfin la réserve gouvernementale, soit transformée en mission. Donc, si vous voulez, le gouvernement passe la patate chaude en disant aux missionnaires, allez-y, parce que nous, c'est terminé. Et c'est terminé après des décennies de souffrance. Parce que là, j'ai fait un pas entre fin des années 20 et le début des années 50, mais ce qui s'est produit entre-temps, dans les années 30 et 40, c'est que le Moore Settlement a servi de plus en plus comme endroit pour déporter et pour parquer les enfants dont j'ai parlé, les half-castes, donc c'est-à-dire les enfants qui ont un parent blanc et un parent noir, pour les mettre à l'écart. Parce qu'on ne voulait, le gouvernement, la politique du gouvernement à l'époque et du Chief Protector of Aborigines, le protecteur Neville, qui était appelé Neville's Devil, Neville le diable par les aborigènes, qui a mis en place ces politiques-là. Le but était que soit vous étiez totalement aborigène et vous pouviez continuer votre vie traditionnelle si votre terre n'avait pas été volée, donc très peu de personnes, soit on vous intégrait au mode de vie occidental avec l'objectif, comme je l'ai rappelé, c'est que après une, deux, trois générations, il n'y ait plus d'aboriginalité en vous. Donc c'est comme on l'a dit, en fait, c'est de ethnic cleansing, je me souviens plus en français.
Épuration ethnique.
Merci, épuration ethnique. Okay. Et ça structure les politiques qu'on appelait d'assimilation à l'époque. Donc, vous savez, quand vous intégrez une population, vous pouvez être dans du multiculturalisme, chacun va vivre avec sa culture. À l'époque, dans les années 20, 30, 40, 50, ce qui est pensé, c'est qu'en fait, on va pas les exterminer comme on l'a fait au début de la colonisation, on va les assimiler. Et pour les assimiler, il faut qu'ils se fondent dans la population australienne. Et pour se fondre dans la population australienne, il faut parler l'anglais, il faut croire en Dieu, il faut avoir un travail, être utile à la société et progressivement éviter dans un premier temps qu'il y ait des mariages mixtes et dans le cas où il y ait des rapports sexuels qui donnent naissance à des enfants qui seraient de gènes à la fois aborigènes et blancs, ces personnes-là, il faut les mettre ailleurs et être sûr qu'ils ne vont pas retourner chez les aborigènes où ils n'y appartiennent plus vraiment, d'après la théorie de l'époque, et plutôt les envoyer dans des familles blanches et espérer qu'à terme ils se marient avec des blancs. Et ça, on parle de Moore, mais en fait, c'est l'histoire de ce qui est appelé en Australie les générations volées. C'est-à-dire que, de façon très physique, dans tout le pays, vous avez eu des représentants du gouvernement, via la police, qui allaient chercher les enfants dont on savait qu'ils avaient un des deux parents blancs, et qui, tout simplement, les enlevait, les prenait, les déportait, et les mettait dans des camps gérés par le gouvernement. Vous avez eu des milliers, des milliers, des milliers d'enfants qui ont eu leur enfance absolument détruite, et qui ont été arrachés de leur famille. Et c'est seulement en 2007 que le gouvernement australien leur a dit « désolé, sorry ».
On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous propose de nous retrouver dans quelques jours pour la dernière partie de cet épisode consacré à la réserve aborigène de Moore River. Merci de votre écoute et à très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
It's a tale as old as time, where the best cyclists meet breathtaking beauty. Don't miss this spellbinding story. This isn't just sport, it's pure drama. The Tour de France. Stream live 5th to the 27th of July on SBS On Demand.